J'écoutai longuement la colline. Je n'entendis qu'un silence de mort. Quoi ? Pas un seul chasseur le jour de l'ouverture ? Je devais apprendre plus tard que les gens du pays ne sortaient jamais ce jour-là, comme ils eussent rougi de prendre un permis pour chasser sur des terres qui étaient leur patrie. Ils craignaient le zèle des gendarmes d'Aubagne, que l'ouverture excitait particulièrement. Je regardais derrière moi pour mesurer le chemin parcouru, et je vis là-haut dans le ciel une montagne inconnue dont le sommet rocheux s'allongeait sur au moins 500 mètres. C'était le Tahomé, mais comme je n'avais vu que sa face étroite, je ne le reconnus pas. Ainsi, le premier astronome qui verra l'autre côté de la Lune cataloguera un astre nouveau. Je fus d'abord perplexe, puis inquiet. Je regardais encore et de tous côtés. Je ne vis aucun repère. Je décidai alors de retourner à la maison, ou plutôt vers la maison. Car pour sauver la face, je ne me montrerai pas. J'attendrai à la lisière des pinèdes le retour des chasseurs et je rentrerai avec eux. Je revins donc sur mes pas, ce qui me paraissait facile. J'avais compté sur la malice des choses. Les chemins qu'on laisse derrière soi en profitent pour changer de visage. Le sentier qui partait vers la droite a changé d'idée. Au retour, il s'en va vers la gauche. Il descendait par une pente douce, le voilà qui monte comme un remblai, et les arbres jouent aux quatre coins. Cependant, comme j'étais au fond d'une gorge, le doute n'était pas permis. Il suffisait de faire demi-tour et de remonter le ravin, sans tenir compte de cette sorcellerie. Mon couteau à la main, je revins sur mes pas. En bon comanche, je cherchais mes traces. Une empreinte, une pierre déplacée, une branche brisée, je ne vis rien. Et je pensais à la merveilleuse intelligence du petit poussé, génial inventeur de la piste préfabriquée. Il était bien trop tard pour l'imiter. J'arrivais soudain à une sorte de carrefour. Le val se divisait en trois gorges, qui remontaient en pied de poule jusqu'au flanc du mystérieux sommet. Je n'avais pas vu à la descente les deux autres. Comment cela s'était-il fait ? Je réfléchis, tout en regardant tour à tour chacune des trois branches. Je compris tout à coup. Les broussailles étaient plus hautes que moi. À la descente, regardant tout droit devant moi, je n'avais vu que le ravin que je suivais, et qui était, comme je l'ai dit, assez tortueux. Mais où était ma route ? J'aurais dû raisonner et comprendre que j'étais descendu dans le premier ravin, à ma gauche, puisque sur le plateau, je n'avais traversé aucun des deux autres. Mais le malheureux chef Comanche acheva de perdre le nord. Il tomba assis par terre et se mit à pleurer. Cependant, je compris bien vite l'inutilité honteuse de ce désespoir. Il fallait faire quelque chose. Il fallait agir rapidement, comme un homme. Et d'abord reprendre des forces, car malgré l'incroyable dureté de mes mollets, je ressentais une très inquiétante fatigue. À l'entrée de l'un des ravins, se dressait une yeuse à 7 ou 8 troncs, disposés en cercle. Et ses ramures d'un vert sombre surgissaient d'un îlot de broussailles où les déchirants argéras se mêlaient aux chênes kermès. Cette masse de verdure épineuse paraissait impénétrable. Mais je baptisai mon couteau machette et j'entrepris de me frayer un passage. Après un bon quart d'heure d'effort et 1000 piqûres fiévreuses, je franchis enfin le cercle défensif. Je découvris au milieu des troncs un grand rond de bauk. Je m'y installai avec un sentiment réconfortant de sécurité. J'étais invisible et d'autre part, je notais que l'un des troncs permettait une escalade facile, avantage inappréciable en cas de sanglier blessé. Je m'étendis sur le dos dans l'herbe douce, les mains croisées sous ma nuque. Au centre de l'yeuse, je voyais un grand rond de ciel. Au beau milieu, un oiseau de proie, presque immobile, surveillait le paysage. Je pensais que ce vautour, ou ce condor, regardait en ce moment même mon père et mon oncle en train de faire griller leurs côtelettes sur de la braise de romarin, car le soleil était au zénith. Après un repos de quelques minutes, j'ouvris ma musette et je mangeai de grand appétit mon pain et mon chocolat. Mais je n'avais rien apporté pour boire, et ma gorge était bien sèche. J'eus bonne envie de dévorer l'orange. Mais un Comanche sait prévoir le mauvais sort, et je la remis dans mon sac, car j'avais à ma disposition une autre ressource. Je savais, par Gustave Aimard, qu'il suffisait de sucer un caillou pour ressentir une impression de fraîcheur délicieuse. La nature prévoyante dans cette contrée privée de sources n'y avait pas épargné les cailloux. J'en choisis un tout rond, bien lisse et gros comme un pois chiche, et je le plaçai selon la technique sous ma langue. Le ravin de droite montait vers le ciel. Je vis qu'à 200 mètres devant moi, il s'arrêtait devant un éboulis en pente douce, qui me permettrait de monter sans doute sur un plateau. Je pourrais enfin voir l'ensemble du paysage, peut-être le village, peut-être ma maison. Je repris aussitôt confiance et je me mis en marche d'un pas léger.